Rebonjour, bienvenue sur La Première et merci d'avoir choisi notre compagnie dans le cadre de notre partenariat avec le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau numéro de Ligne Directe sera consacré ce matin au dispositif CEP, Convention Éducation Prioritaire, Sciences Po Paris, un dispositif instauré sur le territoire calédonien depuis 2010. Je vous présente nos invités venus en parler avec nous. Julia Daniel Guaénéré, chargée des relations publiques, de la communication et du rééquilibrage au vice-rectorat, Marc Anastasio, professeur de sciences économie et sociales au lycée du Grand Nouméa. Bonjour à tous les deux. Bonjour Daniel, bonjour Marc. Soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer ce sujet avec nous et avec nos auditrices et auditeurs, puisque je le précise, le standard est ouvert comme chaque matin. Vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Vous serez les bienvenus au 258-258. Quelques questions d'ordre général avant de détailler ce dispositif, Convention Éducation Prioritaire Sciences Po Paris, un dispositif dont bénéficient un certain nombre de lycéens calédoniens et calédoniennes chaque année. Daniel, Marc, présentez-nous dans un premier temps cette université, l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelée Sciences Po, et expliquez-nous comment, au fil du temps, elle a acquis cette réputation d'excellence dont elle a joui et dont elle jouit toujours aujourd'hui. Marc, Anastasio, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, Sciences Po est communément appelée une grande école. En fait, dans la réalité, c'est pas vraiment une grande école. En fait, c'est surtout un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Mais la particularité de Sciences Po, c'est que Sciences Po, et notamment dit Sciences Po Paris, a formé un grand nombre de personnels politiques, mais aussi des journalistes, parfois même des artistes, et donc des personnalités qui aujourd'hui occupent un grand nombre de postes à très haute responsabilité, dans le domaine d'ailleurs privé comme dans le domaine public. Et la caractéristique donc de cette université, c'est qu'elle est très sélective. Elle a un taux de sélection qui est de l'ordre d'à peu près de 1 pour 10. Et c'est vrai qu'elle accueille des étudiants, non seulement de l'ensemble des meilleurs étudiants français, bien entendu, ou métropolitains, et des territoires d'outre-mer aussi, des DOM-TOM, et puis aussi de la Nouvelle-Calédonie. Mais aussi, elle accueille aussi de beaucoup d'étudiants étrangers. D'ailleurs, c'est ce qui attire parfois souvent nos propres élèves de terminale ES, et certains élèves de Calédonie, parce que justement, il y a cet attrait pour un grand nombre de très bons élèves qui viennent de la France, du monde entier.
Alors, vous avez parlé d'une grande école. J'ai deux, trois questions pour vous. Vous avez dit Sciences Po Paris, c'est-à-dire qu'il y a d'autres Sciences Po ailleurs?
Il y a les Sciences Po de province. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que sciences politiques, l'université la plus prestigieuse reste quand même celle de Sciences Po Paris. Mais c'est vrai que certains de nos étudiants qui parfois n'arrivent pas à être admis définitivement, qui ont été admissibles mais pas admis parfois, après réussissent d'autres concours d'un niveau un petit peu plus faible, disons, mais qui sont des Sciences Po dites de province et qui sont aussi de très grande qualité.
Oui, on établira tout à l'heure la différence entre admissible et admis. On en parle dans un petit moment. Toujours par rapport à Sciences Po, vous avez parlé d'une grande école, vous avez parlé de personnages politiques, d'artistes, bref, de gens qui comptent. Est-ce qu'on peut dire que jusque dans les années 2000, c'était une école un peu, si j'ose dire, élitiste?
Elle a toujours été élitiste, elle est toujours élitiste, mais c'est vrai que il y a, à partir des années 2000, et notamment avec l'arrivée à la tête de Sciences Po de Richard Descoings, la volonté de mettre en place des dispositifs de discrimination positive afin d'ouvrir le recrutement et de faire que les élites françaises, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, ne soient pas uniquement issues du même sérail, d'ailleurs de même catégorie socio-professionnelle, comme dirait Bourdieu, des héritiers au sens de Bourdieu, avec tous les capitaux, mais des gens qui viennent d'autres horizons. Cette volonté a été manifeste dès les années 2000 à Sciences Po Paris. Alors, ça a été repris dans quelques grandes écoles, mais ça reste encore relativement limité.
On posera la question tout à l'heure et vous nous direz quelles sont ces grandes écoles qui accueillent aussi, qui ont ouvert leurs portes peu à tout le monde. Donc, vous l'avez dit à l'instant, au début des années 2000, Sciences Po a décidé d'ouvrir ses portes en créant le dispositif CEP, Convention Éducation Prioritaire Sciences Po Paris. Alors, à partir de quel constat, avec quel type d'établissement scolaire, s'est créé ce dispositif et dans quel objectif, même si on l'a déjà un petit peu évoqué à l'instant avec la réponse que vous nous avez faite, Marc Anastasio. Daniel Guaynéré, donc quel type d'établissement scolaire, à partir de quel constat et dans quel objectif?
Alors, c'est vrai que, comme disait Marc, c'est Richard Descoings qui a mis cela en place en Nouvelle-Calédonie et un peu partout en France, en particulièrement en Nouvelle-Calédonie, donc à partir de 2001. Comme le disait Marc, il y a eu une décision qui a été prise à un comité des signataires, donc de mettre en place cette convention en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, la convention d'éducation prioritaire, au départ, a été parrainée par Marie-Claude Tjibaou. Donc, il y a vraiment eu une décision politique à un moment donné de mettre en place cette convention d'éducation prioritaire pour permettre justement à des Calédoniens issus de milieux défavorisés de pouvoir intégrer cette grande école.
Est-ce qu'on est dans cette notion finalement de favoriser l'égalité des chances?
Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les 5 lycées donc qui sont partenaires dans le cadre de cette convention, on a essayé de respecter donc la mixité sociale tout d'abord, mais bien sûr les 3 provinces. Donc on a un lycée de chaque province et aussi l'enseignement privé qui en Nouvelle-Calédonie a une place tout à fait très importante. Donc 2 lycées d'obédience religieuse, de la DEC et de l'ASE.
Alors justement, quels sont ces 5 lycées calédoniens qui sont en partenariat avec Sciences Po Paris? Si vous pouvez les citer.
Oui,
vous avez parlé des 3 provinces, donc peut-être
donc commencer. Le lycée Antoine Kella pour Pointe-Dimy, donc pour la province Nord. Oui. Le lycée William Aoudra pour la province des Îles, donc qui est donc installé à Lifou, et puis le lycée du Grand Nouméa, donc pour la province Sud.
Oui.
Et les 2 autres lycées, donc c'est le lycée d'Okamo pour l'Azé et le lycée à Novare, à Païta, pour l'ADEC.
D'accord, donc 5 lycées partenaires de Sciences Po et de ce dispositif, convention éducation prioritaire, vous l'avez dit, favoriser l'égalité des chances. Au départ, pourtant, cette ouverture, elle était réservée à des établissements qui avaient une particularité, généralement des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. On est dans un contexte un peu différent avec ce partenariat calédonien. Vous l'avez dit aussi, c'est la suite des accords de Matignon, donc signé en 98, et cette volonté dirigeants politiques calédoniens, et notamment la veuve de Jean-Marie Tjibaou, Madame Tjibaou, en 2008, donc qui impulse l'énergie pour mettre en place ce dispositif. En 2010, je l'ai dit dans mon introduction, donc a été signé ce partenariat. Qui sont les partenaires calédoniens de Sciences Po? Les 3 provinces, je suppose.
Oui. Alors, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, avec les 3 provinces, l'IEP de Paris, bien sûr, et puis les cinq lycées aussi.
Très bien. Alors, combien de Calédoniens, depuis 2010, ont été déclarés admissibles et combien ont été admis à Sciences Po Paris?
Alors, depuis, il y a eu 220 lycéens qui ont suivi un atelier Sciences Po dans leur lycée, donc dans les 5 lycées que j'ai cités tout à l'heure. Il y a 123 qui ont été déclarés admissibles.
Oui.
32 ont été admis à Sciences Po et 10 sont ressortis diplômés de Sciences Po.
D'accord. Donc 10 sont ressortis diplômés de Sciences Po. C'est des études sur combien d'années, monsieur Anastasio?
En général, 5 ans et plus. Voilà, 5 ans et plus.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de ce que sont devenus tous les autres? Ils ont continué leurs études, je suppose, dans d'autres universités métropolitaines ou peut-être à l'UNC, l'Université de Nouvelle-Calédonie?
Alors, certains ont continué et sont passés ensuite par Cadre Avenir pour pouvoir présenter des concours très grandes écoles, au cours de l'administration. Marc, tu peux peut-être parler de Lucie, par exemple?
Oui, alors Lucie Rebelle, que j'ai eue au lycée du Grand Nouméa, a été lauréate majeure du concours d'administrateur du Sénat. Je sais qu'Adriaco Mégane, elle avait fait, je ne sais plus exactement, elle était chez nous au lycée de Grand-Méa, c'était la première promotion. Alors je ne sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais par contre j'ai d'autres noms, Mathieu Hortense qui aujourd'hui est avocat, par exemple.
Des exemples concrets de réussite.
Voilà,
finalement.
De réussite. Ouais. Puis je sais que certains sont devenus attachés parlementaires ou sont même revenus ici pour conseiller, être auprès de certains hommes et femmes politiques. Donc globalement, gens, en général, ce sont de très belles réussites et des gens qui ne se contentent pas de rester en métropole et qui reviennent aussi sur le territoire, faire profiter quand même le territoire des efforts financiers réalisés par le gouvernement de la Calédonie, parce que c'est quand même le gouvernement de la Calédonie quand même qui paye ce dispositif.
Tout à fait, on va l'évoquer après ce financement.
Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que on a cette convention d'éducation prioritaire, mais on a aussi d'autres étudiants qui présentent le concours ou qui passent par Cadre Avenir et qui sont aussi à Sciences Po.
Oui, on n'est pas obligé d'être dans l'un des 5 lycées mentionnés il y a quelques minutes. Donc,
après,
on peut bien sûr intégrer Sciences Po par l'intermédiaire de Parcoursup, non, je suppose. C'est bien ça
C'est
un concours. Même si ce concours va être réformé, il n'y aura plus d'écrit, ce sera un oral. Non, le CEP, c'est quand même très particulier. CEP, c'est réservé exclusivement à ces 5 établissements.
Ouais.
Après, c'était les autres Calédoniens qui passaient, qui intégraient Sciences Po, le passaient par, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la voie classique ou royale. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités de rentrer à Sciences Po, parfois sur des admissions parallèles, après avoir déjà été diplômé. Mais là, nous, ce qui nous intéresse vraiment, enfin, le dispositif CEP, c'était vraiment ces 5, en fait. Parce que j'aimerais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment cette volonté manifeste que nous avons d'essayer de lutter contre l'auto-censure, l'auto-limitation des élèves et de leurs parents. C'est vrai que dans certains milieux sociaux, faire une grande école et notamment intégrer Sciences Po Paris, pour certains, c'est de la science-fiction. Mmh. Et encore plus en Calédonie qu'en métropole, par exemple. Mmh. Et c'est pour ça que ces dispositifs existent. Voilà.
Mmh. Très bien. Alors concrètement, comment les élèves calédoniens peuvent-ils s'engager dans ce dispositif? Est-ce que c'est eux qui décident de s'y engager ou est-ce que ce sont les établissements qui repèrent les jeunes méritants, motivés et qui éventuellement pourraient réussir? Comment ça se passe?
Alors, c'est vraiment basé sur le volontariat. Mmh. Chaque lycée va ouvrir un atelier Sciences Po qui est en règle générale animé par 2 professeurs. Mmh. La plupart du temps...
Au moment de la terminale
Tout à fait. Alors, ça se passe en terminale. Mmh. Mais c'est vrai que le repérage peut se faire dès la seconde. Parce que, par exemple, un des collègues prof principal de seconde va me dire « Marc, tiens, j'ai repéré un élève particulièrement intéressé et brillant et qui aimerait vraiment réussir. Et donc, je commence déjà à parler à des élèves de seconde, voire même de première. Mais l'atelier ne se fait véritablement qu'en terminale, même si dans certains lycées, parfois, on peut commencer un peu en première. Donc, en début d'année, on a un atelier qui est animé par 2 professeurs, souvent un professeur de sciences économiques et sociales et un professeur d'histoire-géo, mais c'est pas exclusif. On peut avoir des profs de philo, même avoir des professeurs documentalistes aussi qui s'en occupent. Et à peu près à raison de 2 heures par semaine, on accueille tous les élèves de terminale qui sont désireux de suivre l'atelier. Il n'y a pas d'exclusif, c'est-à-dire qu'on ne va pas, a priori, éliminer les élèves de terminale. Élèves de terminale générale, élèves de terminale technologique. Il est vrai que ça s'adresse plus à des élèves de terminale générale que de terminale ou de bac généraux que de bac technologique. Mais la plupart du temps, c'est vrai que nous avons quand même quasiment que des bacs généraux, des bacs S, des bacs ES, essentiellement des bacs ES et des bacs L. Voilà.
Alors, cet atelier, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y apprend?
Dans un premier temps, on leur explique ce qu'est Sciences Po, déjà, premièrement. Et deuxièmement, quelle est la procédure spécifique d'admission dans le cadre de la CEP, qui est une procédure qui est quand même assez particulière. Si vous voulez, je peux vous la détailler.
Voilà, expliquez-nous chronologiquement le déroulement.
Alors, dans un premier temps, après avoir présenté Sciences Po et la procédure d'admission, elle se déroule de la manière suivante. Les établissements décident de ce qu'on appelle d'une fenêtre de presse. Pendant 2 mois, les étudiants ont la possibilité de choisir, dans l'actualité, un événement particulier qui les intéresse. Ils doivent collationner un certain nombre d'articles de presse, entre à peu près grosso modo 10 et 15 articles, pour faire un dossier de presse. Puis, à partir de ce dossier de presse, ils vont faire une synthèse de presse et une synthèse personnelle qu'ils vont rédiger et ils vont préparer un grand oral. Donc on fait ça pendant 2 mois, on les suit pendant 2 mois. Au début, on leur a présenté ce que c'est qu'une ligne éditoriale. Le but du jeu, c'est d'essayer de leur montrer en fait qu'un événement peut être abordé de façon tout à fait différente en fonction des lignes éditoriales de tel ou tel, que ce soit Le Monde, L'Humanité, Le Figaro, voilà, exactement, ce genre de choses. Et puis, une fois qu'ils ont fait ce dossier de presse, ce dossier de presse et ces 2 synthèses, ils le présentent à un oral qui va être organisée au sein du lycée. Mmh. La présidente, ou le président, je parle de présidente parce que c'est ma proviseur, Madame Blanc, qui s'en occupe au lycée du Grand Nouméa. Hein.
Oui.
La présidente de ce jury est, en général, le chef d'établissement, qui est, en général, accompagné d'un certain nombre de professeurs. Alors, soit des professeurs de l'université, des personnalités de la vie publique, hein, mmh. et puis aussi, ça peut être aussi, par exemple, chez moi, des chefs d'entreprise. Mmh. Donc, ils passent un grand oral, hein, où ils présentent leur dossier. Ils présentent aussi leur motivation pour pouvoir intégrer Sciences Po. Mmh. Et il n'y a pas du tout de numerus clausus ou quoi que ce soit. Mmh. On va choisir, enfin, ils vont choisir, parce que moi, je peux pas être là-dedans, puisque je les forme. Hein. Ils vont choisir, donc, en fait, un certain nombre de candidats qui seront susceptibles, après, de passer l'oral, non pas d'admissibilité, mais l'oral d'admission à Paris.
Oui.
Voilà. Alors ça se fait en août.
Mmh. Ah, pardon, je vous laisse non, allez-y, ouais, allez-y, ça se fait en août.
Ça se fait en août, d'accord.
Oui.
Mmh. Ça se fait en août. Et par exemple, au lycée du Grand Nouméa, cette année, il y avait 8 personnes qui étaient arrivées jusqu'à ce premier grand oral. Mmh. Sur ces 8 personnes, 4 ont été déclarées admissibles.
Oui.
Et à partir d'août, et de août jusqu'en décembre, nous continuons à les entraîner pour le futur grand oral. Mmh. Le but du jeu étant, bien entendu, d'avoir son bac au passage. Parce que les élèves qui n'ont pas leur bac tout de suite ne peuvent pas partir à Paris. Ils peuvent même être déclarés admissibles et ne pas partir à Paris s'ils n'ont pas le bac du premier coup.
Voilà. Mmh, d'accord.
Voilà. Voilà, grosso modo, comment ça va se passer.
Comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie, jusque donc, on est admissible. On va voir la suite à Paris dans un petit instant. Mmh. Sur la formation, votre formation, comment est-ce que vous avez été formé pour accompagner ces lycéens?
Alors, bah, disons que.
Est-ce que vous avez des consignes? Est-ce que vous avez reçu, est-ce qu'il y a un cadre particulier?
Tout à fait.
Imaginez
tout à fait.
Oui. Mmh.
Alors, au début, c'était pas vraiment, au début, c'était pas vraiment cadré, mais maintenant on a Sciences Po a vraiment mis en place un dispositif beaucoup plus strict et cadré, donc on a un certain nombre d'indications à suivre.
Oui.
L'objectif étant vraiment de leur apprendre déjà à ce que c'est, à savoir lire des articles de presse, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'aujourd'hui, nos élèves ne lisent de moins en moins, en fait, la presse écrite, notamment.
Oui.
Alors, même si on le lit à travers Internet ou autre, il n'empêche que lire des articles de presse, c'était pas vraiment... ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Donc, le but du jeu, c'est déjà de leur expliquer ce que c'est qu'une ligne éditoriale, la façon dont on doit analyser des articles,
alors,
la façon
justement,
dont on fait une synthèse.
Ouais, voilà. Justement, puisque vous en parlez, qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale, pour ceux qui ne sauraient pas?
Ligne éditoriale, disons que c'est, en fait, je sais pas moi, c'est la ligne directrice que se donne un organe de presse et qui peut avoir une certaine orientation politique ou économique et sociale.
Oui.
Donc, on leur explique que, justement, un même événement peut être appréhendé de façon très différente que l'on appartienne à tel ou tel média.
Mmh.
Et donc, effectivement, donc ça c'est pas toujours évident. D'autant plus qu'ils sont pas toujours habitués à cette espèce de à cette pluralité, en fait, de la presse en Nouvelle-Calédonie.
Oui. Est-ce qu'on leur apprend aussi à penser par eux-mêmes? Est-ce que...
Oui, bien entendu. Mais c'est vrai que pour eux... Disons que dans un premier temps, la synthèse de presse, c'est on doit tirer la substantifique moelle de chaque article sans mettre son grain de sel. Par contre, la synthèse personnelle, c'est à partir de ce que j'ai découvert, je vais faire l'effort d'essayer... Voilà ce que disent les uns, ce que disent les autres. Alors, c'est très, très prétentieux pour un élève de terminale de dire « moi, j'ai tout compris ». Mais par contre, on peut construire sa propre vision, c'est-à-dire développer en fait un esprit critique sans forcément être dans la critique, vous voyez, absolue. Mmh. C'est pas critiquer pour critiquer, c'est avoir du recul. Et pour avoir du recul, voilà, il y a différentes options et j'essaie de faire mon miel à partir de ça.
Très bien. Si vous avez des questions à poser à nos invités sur ce sujet intéressant, passionnant, donc... que nous évoquons ce matin. Je vous rappelle que notre standard est ouvert, le 258-258. Combien d'élèves cette année sont admissibles, hein, puisqu'il y a cette notion donc d'admissibilité et cette notion d'être admis, l'admission. Combien aujourd'hui, pour la rentrée 2020, sont admissibles, Daniel?
Alors, nous avons 8 élèves admissibles cette année.
D'accord, donc 8 élèves qui viennent donc de ces 5 établissements qu'on a cités. Mmh. Oui, Marc?
Ce n'est pas la rentrée, hein, disons qu'ils sont admissibles pour et éligibles pour passer le grand oral qui se déroulera le 17 décembre.
C'est ça. Oui. Voilà, s'ils sont admis, ils pourront faire leur rentrée
l'année prochaine.
Au mois de septembre 2020. On est bien d'accord. Donc ils sont 8, ils partent à Paris quand alors?
Alors, sous réserve d'obtention du bac du premier coup, donc, bien sûr. Il partirait donc le 13 décembre, vendredi 13 décembre.
Vendredi 13 décembre, oui. Cet oral, hein, oui. Cet entretien avec Sciences Po, c'est le 17. Hein,
c'est le 17. Donc, sur place, après, on a tout un accompagnement. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais dans cette convention, il y a aussi la Maison de la Nouvelle-Calédonie,
oui.
puisque c'est la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui accueille après sur place les admissibles et qui les prépare aussi d'une certaine façon jusqu'à... il y a des oraux blancs qui se passe à la Maison de la Nouvelle-Calédonie et qui leur fait faire aussi des visites. Là, on va visiter l'Assemblée nationale.
Ouais.
On a des rencontres aussi avec la direction de Sciences Po. Et donc, ils ont l'oral le 17 décembre. Et le retour est prévu le 19.
Le 19, oui. Donc, c'est un voyage un petit peu éclair, quoi. C'est plus rapide. On y va, on présente, on fait cet oral.
Et c'est la Maison de la Nouvelle-Calédonie sur place qui gère ça.
Qui gère toutes les choses, on va dire, un peu pratiques, quoi.
Pratique, logistique. Oui.
Ouais. On va au standard. Sylvia est avec nous. Bonjour Sylvia, soyez la bienvenue. Allô?
Oui,
bonjour Sylvia.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Merci d'avoir appelé.
Oui, merci pour l'émission. C'est très, très intéressant pour nos étudiants. Donc,
merci
moi,
beaucoup.
Ma question, elle va être brève. C'est simplement pour savoir l'élève. Est-ce qu'il doit être, pour être sélectionné ou pour faire ce que M. Marc vient de dire, est-ce qu'il faut être fort dans certaines matières?
D'accord. Est-ce qu'il est important?
Est-ce qu'il faut être fort dans certaines matières? Et ma deuxième question, c'est le gouvernement finance les études des enfants qui sont sélectionnés pour Sciences Po, mais la participation, par exemple, des parents... Est-ce que c'est élevé ou pas?
Est-ce que tout est pris en charge ou
est-ce de suivre financièrement aussi l'étude de ces élèves en Sciences Po?
D'accord,
voilà ma question.
Très bien, merci Sylvia pour ces questions très intéressantes, pertinentes auxquelles nous allons bien sûr répondre. Donc, Marc Anastasio, est-ce qu'il est nécessaire d'être fort dans certains domaines, dans certaines matières pour pouvoir prétendre à l'admission à Sciences Po, en tout cas être admissible?
Voilà. Donc je raconterai un petit peu, il faut reconnaître incontestablement que la plupart du temps, les élèves qui viennent dans l'atelier sont des élèves qui sont en général d'un assez bon niveau, mais surtout des gens très motivés. Je dirais que l'objectif n'est pas uniquement de prendre des très très forts pour leur faire réussir, parce que ça c'est ce qui se fait dans les autres lycées. L'objectif c'est d'essayer de trouver des gens qui ont un potentiel, des élèves qui ont un potentiel important et qui se seraient auto-limités, n'auraient pas eu le courage, ni eux ni leurs parents, de faire cette démarche en disant je suis capable de. Donc oui, ça demande plus de travail, c'est incontestable. On demande à des élèves de terminale de faire plus de choses que ce que font les autres camarades. Donc effectivement, ça demande une volonté plus importante. Et après, oui, ce sont des gens qui doivent être intéressés par l'actualité. Donc souvent, des élèves qui suivent déjà un peu l'actualité et qui ont une certaine appétence pour l'histoire géo, pour les sciences économiques et sociales, mais aussi pour la philosophie. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas que des profs de SES ou d'histoire géo, on a des profs de philo, des professeurs documentalistes. Il faut des gens curieux, voilà, des gens curieux de ce qui se passe de par le monde et qui ont envie d'approfondir tout ça et qui sont aussi animés d'une volonté farouche. Cette volonté, on est là aussi pour la stimuler, hein. On est là pour les accompagner parce que dans le cadre de ces ateliers, les professeurs sont quand même bienveillants. Et le but du jeu, c'est quand même d'accompagner des élèves qui, traditionnellement, ne seraient pas allés vers ce type de dispositif. Voilà.
On avait Bernard au téléphone, il est parti. S'il veut revenir dans un petit moment pour poser sa question ou faire son commentaire, il sera bien sûr le bienvenu. Sur le deuxième point,
partie,
donc, j'avais prévu de poser la question plus tard, mais puisque Sylvia a posé la question, répondons-y maintenant. Sur le financement donc de ce dispositif, est-ce que tout est pris en charge ou est-ce qu'il reste une partie à la charge des lycéens ou des parents, de la famille?
Alors, je disais tout à l'heure, au tout début, cette convention, il y a un partenariat entre le gouvernement, les trois provinces, la Maison de Nouvelle-Calédonie et l'IEP de Paris. La convention d'éducation prioritaire, elle concerne les cinq lycées et l'IEP. Mais dans la convention de partenariat, c'est justement pour financer tout l'accompagnement concernant ces élèves admissibles, à partir de l'admissibilité. Donc, le gouvernement intervient, les trois provinces, et la Maison de la Nouvelle-Calédonie et l'IEP de Paris, mais aussi donc les billets, par exemple les billets d'avion, sont pris en charge par l'État, par le biais de passeport mobilité, et c'est sur critères sociaux. Donc c'est les critères sociaux de passeport mobilité. Quand on a un élève dont les parents ont des moyens supérieurs aux critères sociaux qui sont définis par le passeport mobilité, eh bien c'est à la charge des parents. Voilà.
D'accord, mais généralement.
Mais généralement, les provinces interviennent donc et passeport mobilité.
Et généralement, il reste peu finalement de frais à la charge des parents, des familles.
Sauf si c'est un élève, un élève admissible qui a vraiment beaucoup de moyens, et là, du coup, ce sont les parents qui doivent.
Oui, parce que bon, il y a cette histoire de billet d'avion, mais une fois qu'on est là-bas, il faut se loger, il faut manger.
Non. Après, sur place, c'est la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui ils sont logés.
Pour l'inscription à Sciences Po aussi,
les frais d'inscription sont pris
en charge également. Oui. Très bien. On en était à la phase d'admissibilité. Donc, c'est 8 jeunes Calédoniens qui vont partir le 14, me semble-t-il.
Le 13.
Qui seront à Paris donc le 17, en entretien Sciences Po. Des élèves qui vont être préparés, vous l'avez dit aussi, par la Maison de la Nouvelle-Calédonie.
Ils sont aussi préparés ici. On a deux séminaires. Marc,
cette semaine.
On avait un premier séminaire qui s'est déroulé pendant la première semaine des vacances d'octobre, qui réunissait tous les admissibles de tout le territoire, dont les 8 élèves. On était au campus des îles, et un certain nombre de professeurs venant de tous les ateliers sont venus apporter leurs contributions, les entraîner à ces oraux, et notamment à lecture d'images, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, c'est assez spécifique. Et là, on avait décidé, donc avant on le faisait sur une semaine, là on fait 3 jours en octobre, et on va faire 2 jours demain, jeudi et vendredi. Pourquoi ? Parce que c'est juste après les écrits du bac, et donc ça nous permet de faire un point. Ils vont souffler un petit peu, bien entendu, parce que l'objectif c'était quand même le bac, et là on les reprend, on va à nouveau les entraîner à préparer cet oral.
Donc ça sera le 17, ce sera à Sciences Po Paris, voilà. Ils vont travailler à partir du dossier qui les a rendus admissibles. Comment ça se passe?
Alors, le premier oral d'admissibilité est un oral qui porte surtout sur leur dossier de presse, un peu moins sur leur personnalité, sur leur motivation. Je dirais que l'oral d'admission à Paris va plus porter maintenant sur l'individu, l'élève, son projet, sa personnalité, plutôt que sur son dossier. Bien entendu, ils ont, dans le cas de cet oral, le jury de Sciences Po a la possibilité de rebondir sur leur dossier de presse. Mais l'objectif, là, entre le moment où ils ont été admissibles et le moment où ils présentent l'admission, c'est de suivre l'actualité de leur dossier et l'actualité en général. Voilà. Et d'autant plus qu'ils ont dû élaborer une candidature en ligne. Donc, ils ont un dossier en ligne qui devait être réalisé, avec notamment une question d'ordre général, par exemple, qui devait être, on devait y répondre de façon synthétique sur qu'est-ce qu'être responsable aujourd'hui. Voilà, ils avaient ça. Et en plus, ils devaient détailler leur motivation. Et le jour de l'oral à Paris, de l'oral d'émission, ils vont rebondir là-dessus pour leur poser un certain nombre de questions et en fait juger de leur motivation.
Qui seront les personnes qui seront chargées de rencontrer, d'écouter ces jeunes calédoniens?
Ce sont des professeurs de Sciences Po. Voilà. En général, ils sont 2 ou 3 par jury. Et cette année, comme ils sont relativement peu nombreux, je crois qu'il n'y aura qu'un seul jury. Et je crois qu'ils seront 2 ou 3 et ça se déroulera sur une seule journée. Et ils auront les résultats le lendemain. Et ils seront convoqués, les élèves seront convoqués et on leur expliquera les raisons pour lesquelles on les a pris ou on ne les a pas pris.
D'accord. Vous m'avez fait passer, pendant que M. Anastasio nous expliquait tout ça, le dossier, le programme finalement de jeunes calédoniens. Et on le voit, c'est réglé quasiment à la minute. Donc,
complètement.
pas de place pour l'improvisation ou le hasard. Combien recense-t-on d'étudiants calédoniens? Donc, on l'a vu, 8 cette année. Les épreuves, vous les avez dit, le 17. On aura la réponse le lendemain, donc entre le moment de leur admission et celui de la rentrée en première année. Donc sur ces 8 qui vont se présenter, imaginons qu'il y en ait 3 ou 4 qui soient donc admis à Sciences Po. On est au mois de décembre. La rentrée, c'est au mois de septembre l'année prochaine. Ça laisse une période de 10 mois. On ne va pas laisser ces jeunes pendant 10 mois comme ça dans la nature. Que se passe-t-il pour ceux qui sont admis?
Alors, certains reviennent sur le territoire. Certains ont la possibilité parfois de rester sur place. En règle générale, ils reviennent pour repartir à la fin du mois de janvier, début du mois de février, parce qu'ils sont pris en charge spécifiquement par Sciences Po. Et avec, alors, parfois quelques autres étudiants. Alors, on leur fait suivre un certain nombre de cours, de façon un peu informelle. Mais après, il y a des professeurs de Sciences Po qui s'occupent d'eux particulièrement. Ouais, je me rappelle notamment des étudiants qui étaient qui s'étaient vraiment régalés parce qu'ils avaient un professeur d'histoire qui les amenait se balader dans Paris et qui leur parlait de l'histoire de France à travers les différents monuments qu'ils visitaient. Certains étaient même allés en Turquie accompagner Hakim Alouche, qui était l'ancien représentant de dispositif. Donc des expériences assez extraordinaires au sens premier du terme, parce que justement on avait des profs qui s'occupaient que de ces quelques étudiants calédoniens, ce qui est une chance exceptionnelle. Et après, en septembre, ils font leur entrée traditionnelle d'étudiants.
Donc un véritable accompagnement et pas sur quelques jours, sur plusieurs semaines.
Tout à fait.
14 semaines, me semble-t-il, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans le dossier, oui.
D'autant plus que parfois, on recrute des étudiants qui ont un niveau qui n'est peut-être pas forcément aussi bon, entre guillemets, que ceux qui passent par la voie classique et royale. Donc le but du jeu, c'est aussi de les aider à, peut-être pas, à rattraper parfois un certain retard, ou en tout cas à lutter contre cette auto-censure ou auto-limitation.
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Marc, c'est que donc ce module, on va dire, il dure 14 semaines, et il y a donc un coordonnateur qui est chargé donc d'accompagner ces élèves calédoniens. Et ce coordonnateur Sciences Po, il est rémunéré par la Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie de la convention de partenariat.
D'accord.
Je voulais juste le rappeler.
Bien sûr, c'est important. C'est important de préciser que la Nouvelle-Calédonie met les moyens pour ces jeunes méritants et dans le cadre donc de cette de favoriser l'accès à tous aux plus grandes écoles. Vous avez, on ne l'a pas évoqué, mais il y a une réforme de Sciences Po qui est prévue. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce dispositif ou pas?
On aurait pu le penser. Effectivement, je ne connais pas exactement le détail de la réforme, mais je crois qu'ils vont laisser tomber le recrutement, le concours classique par écrit. D'ailleurs, ça a donné lieu à pas mal de polémiques. Et on va passer véritablement à un recrutement qui va se baser sur l'oral, comme d'ailleurs le dispositif convention éducation prioritaire. Mais le dispositif va persister, il ne sera pas modifié. Donc, il n'y a pas d'incidence, en fait, de la réforme du recrutement de Sciences Po Paris sur le convention éducation prioritaire.
Concernant maintenant le suivi et l'évaluation du dispositif, qui on a la responsabilité, c'est le vice-rectorat, Daniel Guaynéré.
Alors, le vice-rectorat est dans ce suivi, on va dire, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est la Direction Générale des Enseignements qui est partenaire pour la mise en œuvre, on va dire, du dispositif avec le suivi, l'évaluation. Donc, moi, je suis référente académique pour Sciences Po, mais je suis aussi avec Monsieur Sébastien Kuhlmann, qui est un IAIPR du vice-rectorat et qui est chargé du suivi et de l'évaluation du dispositif Sciences Po en Nouvelle-Calédonie.
Il faut préciser aussi que Sciences Po vient de temps en temps. Ils organisent des visites financées par la Nouvelle-Calédonie également.
Fait.
C'est bien ça?
Oui. La dernière mission, c'était en 2017.
2017, oui.
Donc, ils sont venus à Troyes pour justement rencontrer les trois provinces, tous les partenaires. Ils rencontrent aussi tous les chefs d'établissement, donc de ces établissements-là, ces cinq. Et puis, bien sûr, le vice-rectorat, donc... Donc 2017, c'était la dernière mission.
Oui. Marc Anastasio, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes ces jeunes, vous les côtoyez au quotidien, vous les accompagnez, vous l'avez dit dans ces ateliers, vous les suivez. Dans quel état d'esprit ils sont? Comment les voyez-vous, ces jeunes? Comment les ressentez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Est-ce qu'ils sont différents des autres?
Déjà, je tenais à dire que c'est un grand bonheur pour des professeurs d'avoir des étudiants aussi motivés. Voilà. Ça, c'est incontestable. C'est pas la crème de la crème, mais disons, c'est la crème de la crème en matière de volonté. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mon collègue Alain Chaplet qui anime le dispositif et qui, malheureusement, est obligé de rentrer en métropole pour des problèmes familiaux assez graves. Et c'est avec lui que j'ai travaillé. Et tous les deux, je peux vous garantir que chaque année, on se régale. Et même si je l'ai fait avec d'autres professeurs, la quasi-totalité des professeurs qui ont été sur le dispositif, vraiment, Je dis pas qu'on s'éclate, allez, parlons un peu jeune, mais oui, franchement, c'est sympa, c'est vraiment agréable. Ouais. Parce que on a des étudiants motivés. Alors, parfois, c'est vrai qu'ils ont des cours, entre guillemets, de mou, c'est-à-dire qu'ils doutent d'eux, et on est là pour les redynamiser, leur redonner envie, mais globalement, c'est un bonheur de travailler avec ces étudiants. Et franchement, et souvent, ils reviennent quand ils réussissent.
Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous les revoyez, est-ce que vous les suivez, est-ce qu'il y a, des contacts?
Souvent, tout à fait. Souvent, ils reviennent. Alors, avec les médias maintenant, nous, les médias sociaux ou autres, on est capable de rester, on est en contact. Hein. Et puis surtout, ils viennent, ils reviennent et puis ils conseillent ceux qui passent, parce que rien de tel. Parce que quand on est là à leur expliquer les choses, oh, ça reste un prof. Quand c'est un de leurs copains ou un ancien copain qui revient et qui leur explique qu'il a réussi en faisant ceci ou cela, c'est tout à fait différent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très très bien et on a vraiment des étudiants avec qui on garde de très très bons contacts.
Et je trouve que c'est une bonne idée finalement de faire revenir ces étudiants parce que oui, rien de tel que le témoignage de quelqu'un qui a fait les choses quoi, ou qui a suivi ce parcours, ce dispositif.
Il nous arrive aussi de les revoir en métropole. Moi je sais que là je vais rentrer à Paris, je vais rentrer en métropole pour les vacances et j'irai le 14, il y a une réunion le 14 janvier. D'ailleurs, j'y serai. Alors, je fais pas exprès d'aller à Paris pour ça, mais n'empêche que je serai sur Paris et j'y assisterai. Et ça sera aussi l'occasion de revoir des anciens. Les anciens qui, d'ailleurs, sont là souvent à l'arrivée de leurs camarades quand ils débarquent pour passer leurs oraux d'admission. Eh bien, ils sont là pour leur faire passer, dans le cas de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qui joue un rôle remarquable, et qui les accueille et qui leur fait passer des oraux pour les préparer.
Alors, aujourd'hui, Sciences Po, enfin depuis 2010, Sciences Po, qui est donc accessible aux étudiants, aux lycéens calédoniens ou lycéennes les plus méritants ou méritantes, est-ce que d'autres écoles, on l'a dit un petit peu en préambule tout à l'heure de cette émission, est-ce que d'autres grandes écoles ont prévu d'ouvrir leurs portes comme ça à travers des dispositifs pour favoriser l'égalité des chances?
Cela reste très limité. Ça se fait la plupart du temps dans le cadre de ce qu'on appelle des admissions parallèles. Des gens qui ne passent pas les concours après avoir fait une classe préparatoire. D'ailleurs, par ailleurs, je m'occupe d'une classe préparatoire au lycée Lyon Nouméa. Je fais un peu de la pub pour les grandes écoles de commerce. Je suis professeur dans le cadre de cette classe préparatoire. Mais dans les admissions parallèles. Mais véritablement, je pense que c'est pas unique, mais quasi unique. Et c'est vrai qu'il y a de fortes résistances parce que le système classe préparatoire, grandes écoles, ça reste quand même l'élitisme républicain très classique et très traditionnel français. Très français.
Il est 8h presque 50 minutes, c'est bientôt la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez envie tous les deux, l'un et l'autre, de rajouter quelque chose que je ne vous aurais pas demandé, préciser, ou alors encourager les jeunes qui nous écoutent ce matin à se lancer, à ne pas hésiter, à ne pas avoir peur?
Moi, je voulais juste rappeler, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, et je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par les trois provinces, mais la Maison de la Nouvelle-Calédonie est financée par les trois provinces, donc quand on parle de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, on parle bien entendu de la participation financière des provinces.
De l'argent public, bien sûr.
Non, moi je voulais simplement inciter pour l'année prochaine, en tous les cas, beaucoup plus de jeunes issus, on va dire, originaires du pays, ici de la communauté kanak, à pouvoir justement adhérer et puis travailler dans le dispositif avec dans les cinq lycées en tous les cas. Parce que malheureusement, même si c'est quand même un dispositif politique, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui a été initié et demandé par les signataires un comité des signataires. Et voilà, c'est un petit peu le bémol de ce dispositif, c'est qu'on a encore très peu d'admissibles d'origine du pays, en particulier kanak. Voilà. Mais non, c'est un dispositif qui aujourd'hui, on va dire, a pris un envol particulier, puisque voilà, depuis 3 ans, le vice-rectorat a souhaité reprendre, on va dire, le pilotage, puisque jusque-là, c'était piloté plutôt par les chefs d'établissement de ces 5 établissements. Et voilà, on est sur une bonne avancée, une bonne lancée.
8 admissibles cette année. Combien d'admis? On le saura donc le 18 décembre.
Tout à fait.
Il n'y a pas de limitation, hein. S'il y en avait 25, il y en aurait 25. Ou, vous voyez, il y a un nombre de places limité quand même ou pas?
Non, pas vraiment.
Non.
Enfin, en tout cas, pas officiellement.
Ouais. Oui, voilà.
Si, par exemple,
oui.
si, par exemple,
c'est des budgets qui limitent la place. C'est en fonction des budgets disponibles.
Non.
Dans les lycées, par exemple, quand, lors du premier oral d'admission, si on en a 8 et si sur les 8 qui font de très très bons oraux, la plupart du temps, on en enverra tous les 8. C'est vrai que traditionnellement, c'est pas le cas. Il y a à peu près, mais on se dit pas, on en envoie 50%.
Oui.
Il y a vraiment
bien
pas.
Bien sûr, il voilà. y a pas de, de.
Il y a une année, on a eu qu'un seul admis sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Il y a d'autres années, on en a eu 4 ou 5. Voilà. Donc là, par exemple, sur 8, on peut penser qu'on en aura 3 ou 4, par exemple. Voilà.
L'année dernière, on en a eu 4 sur 12.
Oui. Voilà. C'était pas mal. Lecture d'image, je reviens sur ça, je l'avais noté, vous avez évoqué tout à l'heure la lecture d'image, qu'est-ce que c'est?
Alors, dans le cadre de l'oral d'admission à Sciences Po, il y a une spécificité, c'est qu'on peut les amener à réagir de façon très très rapide à partir d'une image, à partir d'une caricature de presse ou autre, et donc il doit être capable de réagir par rapport à ça et de trouver des axes de réflexion pertinents. Ça peut être quelque chose d'actualité, de l'actualité brûlante, pure, mais ça peut être aussi quelque chose de tout à fait différent. Voilà, l'objectif, ça fait partie pour voir justement s'ils sont capables de réagir assez rapidement. Voilà, donc c'est-à-dire, on va pas leur dire, regardez, vous avez, on va pas leur dire, vous avez 5 minutes, regardez cette image et vous devez en faire un commentaire. Non, on leur dit pratiquement, voilà. Ils ont à peu près 15 secondes. Ils doivent réagir par rapport à ça. Et on va travailler plus particulièrement là-dessus. Et on a fait ça notamment avec un professeur qui était un professeur d'Anova, qui lui était spécialiste, un prof qui est venu lors du premier séminaire et qui était un professeur d'art plastique, qui était spécialisé là-dedans.
Voilà. La capacité d'analyser rapidement une situation,
une image.
La spontanéité, on peut dire ça comme ça aussi. Vous avez eu la parole il y a un instant, Daniel Goyeneré. Marc Anastasio, le mot de la fin peut-être pour vous, encourager les jeunes finalement.
Oui, tout à fait. Moi, le mot de la fin, c'est un dispositif, je crois que la Calédonie finance en fait un dispositif qui est assez exceptionnel et qu'il faut que les élèves calédoniens se saisissent de cette chance et surtout ne s'auto-limitent pas et ne s'auto-censurent pas, et c'est fait pour eux. Voilà. C'est un dispositif qui est fait pour eux et qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour construire ce pays.
Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous parlions ce matin de ce dispositif Convention éducation prioritaire Sciences Po Paris, instauré sur le territoire calédonien depuis 2010. 32 Calédoniens, pour reprendre les chiffres qui nous ont été communiqués tout à l'heure, ont été admis à Sciences Po. 8 sont admissibles cette année. Ils se présenteront devant le jury de Sciences Po le 17 décembre. Et on leur souhaite, bien sûr, on croise les doigts pour eux, on leur souhaite le meilleur. Nous avons évoqué ce sujet avec Julia Danielle Goyeneré, chargée des relations publiques, de la communication et du rééquilibrage au vice-rectorat, et Marc Anastasio, professeur de sciences, économie et sociales au lycée du Grand Nouméa. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci beaucoup.
Très belle journée à vous.